ensemble Matthieu 28, versets 1 à 10. Tous ensemble, on va lire tous ensemble. On y va. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jusqu'ici notre lecture. Jésus est mort et a été enseveli le vendredi, enfin crucifié vers midi, et il a souffert pendant 3 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est éteint. Normalement, c'est à 9 heures à l'heure juive. Mais comme il faut rajouter 6 heures de plus pour nos heures actuelles, donc on estime qu'il a dû succomber vers 3 heures de l'après-midi. C'est pour ça qu'on dit toujours le dimanche matin pourquoi on va là-bas. Ah, quelqu'un me disait, mais c'est pas jeudi ou peut-être lundi qu'il est ressuscité. En fait, on pense souvent, enfin certains chrétiens, des débuts, enfin ceux qui commencent la foi, ou encore pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien, on pense que c'est 3 jours après, 3 jours complets après. En fait, c'est vendredi, c'était premier jour, c'est là où il est mort. Samedi, c'est le deuxième jour. Et dimanche, c'est le troisième jour. C'est pour ça qu'elles sont allées troisième jour. C'est seulement, on pourrait dire, 2 jours, un peu plus de 2 jours après que les femmes sont allées voir Jésus au sépulcre. En tout cas, ces femmes, donc Marie Magdala, Marie, donc la mère de Jésus, et aussi d'autres femmes comme Salomé, la mère de disciples, qui étaient présents au moment de la mort de Jésus, elles avaient un seul objectif, c'est d'aller au tombeau pour l'embaumement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était aussi la tradition. Et puis surtout, revoir ce Jésus qu'ils aimaient. Ils étaient dans la désespérance, dans le désespoir. Ils étaient dans la déception. Ils étaient dans la tristesse. Et ils ne se sont pas souvenus que Jésus allait ressusciter. En tout cas, ils avaient, à cause de l'amour de leur Seigneur qui est mort, elles commencent en tout cas, dès le matin très tôt, aller voir ce Jésus qui est mort. Et quand elles arrivent au tombeau, alors, voilà le tombeau de Jésus que vous pouvez voir à Jérusalem. Hein. Elles arrivent au tombeau et elles voient 2 problèmes. Premier problème, il y avait des faux soldats qu'elles ne pensaient pas voir. Et pourquoi il y avait des soldats? Tout simplement parce que, pourquoi? Comment? Exactement. Les autorités avaient peur, c'est-à-dire les sacrificateurs, les prêtres sacrificateurs, les pharisiens, ils se sont souvenus de la parole de Jésus qui disait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés voir Pilate, le gouverneur, en disant que « Eh, mais Pilate, cet imposteur qui est mort, il nous a dit qu'il allait être ressuscité. Donc, est-ce que toi, tu peux mettre des soldats devant le tombeau de Jésus pour qu'aucune personne puisse dérober ce corps ?» Et Pilate dit « Mais vous, vous avez votre propre armée, enfin votre propre soldat, alors faites vous-même. » Et donc, le grand sacrificateur envoie les soldats juifs devant le tombeau de Jésus. Et donc les soldats, justement, gardaient le tombeau de peur que les disciples viennent dérober le corps de Jésus. Alors que les disciples de Jésus, eux, ils étaient quoi? Ils étaient complètement incrédules, ils ne croyaient pas du tout ce que Jésus avait déjà dit auparavant. Eux, ils avaient tout simplement été dans la crainte parce qu'il était mort. En tout cas, cette femme, ces femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus rencontrent deux problèmes. Premier problème, ces soldats qui sont devant le tombeau. Puis le deuxième problème, c'est quoi? La pierre. Comment elle devait faire pour rouler la pierre? Elle se demande même, mais comment on va faire? Comment on va faire? Dans Matthieu, dans Marc aussi, on voit la même épisode où elles se disent, mais comment on va faire pour rouler la pierre qui est si lourde? Et là, au verset 2-3, il est dit, voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Voilà, il y a eu un grand tremblement de terre qui a permis de faire rouler la pierre. Et puis d'ailleurs, avec ce tremblement de terre, il y a un ange qui descend du ciel. Imaginez la stupeur des femmes. Ah là, peut-être, elles commencent à réfléchir. Ah oui, peut-être que la parole que Jésus avait dit est en train de s'est peut-être passé. Je ne sais pas. En tout cas, les soldats, eux, ils étaient comme morts. Morts. D'ailleurs, le rôle des anges, c'est quoi? Le rôle des anges, c'est de travailler, d'obéir à l'ordre de Dieu. Hein? Ils sont des serviteurs de Dieu. Et là, ils descendent pour transmettre aussi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus qui est mort est ressuscité. En tout cas, ces anges, on voit aussi dans l'Ancien Testament où ils apparaissent pour transmettre le message de Dieu. Dans Ésaïe, ils proclament la gloire de Dieu. Dans Abraham, ben, c'est eux qui vont aussi porter la mauvaise nouvelle comme quoi Sodome et Gomorre vont périr, etc. etc. Donc, les anges avaient pour but de transmettre le message de Dieu. Et ces anges-là, un ange est apparu pour parler de la part de Dieu que Jésus est ressuscité. Et au verset 6, il est dit, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Voilà donc, l'ange est en train de transmettre que non seulement il est ressuscité, mais vous allez le voir. Et d'ailleurs, Jésus avait prédit qu'il allait faire tout cela. Dans chapitre 26, il est dit, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Donc il prédit déjà qu'il va mourir. « Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Voilà. La mort de Jésus va faire en sorte que tous ses disciples se dispersent et même renient même devant cette petite servante comme Pierre qui avait renié. Verset 32, il est dit, « Mais après que je serai ressuscité, » donc là, Jésus a bien parlé de sa mort et de sa résurrection, et il dit encore, « au verset chapitre 26 avant cela, il dit aux disciples, « Je vous précéderai en Galilée. » En Galilée. Donc, il parle, il prédit, il prophétise que, après sa mort et sa résurrection, il va les revoir en Galilée. Les femmes reçoivent le message, ce message si merveilleux. D'ailleurs, pourquoi Dieu fait en sorte que l'ange soit envoyé pour que les femmes reçoivent ce message? Certains disent que parce que ce sont les femmes. Vous n'avez pas compris? Non. Le caractéristique des femmes, c'est... Pourquoi tu rigoles? La transmission. La transmission. Très rapide. Non mais ça c'est... Certaines personnes disent, voilà, Dieu a envoyé l'ange pour que les femmes puissent vraiment parler autour d'eux. Assez rapidement même, très très rapidement. Je ne pense pas que ce soit ça. Vous savez, il faut réfléchir aussi à la place des femmes à l'époque. Les femmes étaient martyrisées, elles n'avaient pas de place. Même dans le temple, on voit bien leur place. Elles sont complètement séparées des hommes. Hein? Même avec, elles étaient considérées comme les femmes. D'ailleurs, dans la Bible, on les compte même plus. Hein? Quand on dit on a nourri 5000 hommes, c'est seulement 5000 hommes. On ne compte pas les femmes, ni les enfants. Donc on voit un petit peu que les femmes ne sont pas écoutées. Quand elles disent quelque chose, on a du mal à accepter ce qu'elles disent. Mais le Seigneur a utilisé ces femmes qui n'ont pas de place dans la société. Parce que Dieu utilise aussi les faibles pour montrer sa puissance. Dieu utilise les faibles pour montrer sa puissance. Ça me rappelle aussi ce juge qu'il a utilisé, c'est Éhude. Un juge Éhude où, pendant 18 ans, l'Israël était dans la désolation, sous le contrôle des Moabites. Et ce juge Éhude était donc élu de Dieu, mais il avait un problème. C'est qu'il ne pouvait pas utiliser son bras droit. C'était un handicapé. Mais Dieu utilise ce juge pour justement faire disparaître le roi Moab. Voilà, Dieu utilise des gens faibles, des gens peut-être qui sont méprisés par la société pour transmettre la nouvelle, la bonne nouvelle. Devant ce message de l'ange, comment les femmes réagissent? Tout d'abord, elles ont peur. Elles ont peur. C'est la première fois qu'elles rencontrent un ange, donc c'est normal. Est-ce que vous imaginez? Imaginez ce soir, vous rencontrez un ange comme ça, qui descend du ciel. De vos propres yeux, vous voyez. Hein? Comment vous allez réagir? Hein? Je pense que j'ai déjà raconté dans ma vie, j'ai eu deux fois des songes. Et les deux fois où j'ai vraiment eu un songe, où j'ai rencontré dans mes songes Dieu, voilà, ma première réaction, c'est de m'aplatir parce que j'étais un pécheur et que Dieu était saint. Et c'est vrai que je pense que les femmes, devant, en voyant les anges, l'ange, elles devaient avoir peur. Peur pour leur vie, mais aussi peur de ce qui allait se passer. Mais après avoir entendu le message, elles étaient aussi dans la joie. Elles étaient dans une certaine confusion. Il y avait la peur, mais aussi cette joie, parce que cet ange lui raconte que Jésus est ressuscité. Dans d'autres évangiles, on voit aussi que, en fait, Marthe, Marie de Magdala, Marie de Magdala revient et rencontre Jésus. Jésus qui était là. Et puis les deux autres femmes aussi rencontrent. Donc il y a quand même, les femmes avaient vraiment, non seulement reçu le message de la part de l'ange, mais elles rencontrent vraiment, véritablement Jésus ressuscité. Et après avoir rencontré Jésus, elles sont tellement dans la joie qu'elles vont voir les disciples pour transmettre le message. Et malheureusement, les gens disent, mais vous êtes folles ou quoi? C'est vrai, on peut être incrédule. Ensuite, verset 9, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternaient devant lui. Et Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Voilà donc ce que je viens de raconter. Ensuite, on voit donc les gardes qui entrent dans la ville. Ils annoncent aux principaux, ils annoncent ce qu'ils ont vécu aux principaux sacrificateurs, en disant que voilà ce qui s'est passé. Et puis, mais je ne sais pas, ils sont des sacrificateurs, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'attente du Messie. Et après l'annonce de cet ange, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, ces sacrificateurs? Croire que Jésus est le Messie, se repentir et peut-être annoncer à tous, mais au lieu de cela, ces sacrificateurs qui devaient être vraiment les serviteurs de Dieu, ils veulent cacher cette vérité. D'ailleurs, ils achètent les soldats qui ont expérimenté cela et qu'ils leur disent, dites qu'aux autres, ses disciples sont venus de nuit de le dérober pendant que nous dormions. Pendant que nous dormions. C'est insensé. Pourquoi? Parce que les gardes, quand ils dorment, ils sont passibles à mort. Hein? Et là, ils osaient dire à tout le monde qu'ils ont dormi. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas être, survivre après cela. Mais là, ils sont toujours vivants. Donc, voilà un peu le mensonge grotesque. Et si le gouvernant l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Voilà. Donc, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà, donc, on voit, c'est pour ça qu'on ne croit pas la résurrection chez les Juifs. Quant aux disciples incrédules et peureux, en tout cas, je reviens encore au verset 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne de Jésus, que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Imaginez, Jésus est ressuscité. Il est devant vous. Et même là, quelques-uns ont douté. Tous les disciples n'ont pas été immédiatement convaincus que Jésus-Christ est ressuscité, alors qu'il est devant eux. Ce qui prouve que le fait de voir ne suffit pas pour convaincre. Vous avez beau voir les miracles. Vous savez, dans ma vie, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles se produire, mais les gens ne croient pas en voyant tous ces miracles. D'ailleurs, ça me rappelle aussi l'événement où Lazare, le pauvre Lazare et le riche sont allés au paradis, dans Luc 16, et puis le riche qui était dans l'enfer demande à Abraham d'envoyer le Lazare, de faire ressusciter pour que ses frères qui sont encore sur terre puissent croire. Et là, il dit que non, il a déjà envoyé les prophètes pour croire. Même si, lui, il était ressuscité, il ne croirait pas. Parfois, même les miracles ne suffisent pas pour croire, pour convaincre les gens. Mais, vous savez, c'est l'esprit qui doit travailler. C'est l'esprit qui doit travailler. Et puis, le message que Jésus donne à ses disciples, c'est vers la fin, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le commandement de Dieu que le Seigneur a laissé à ses disciples et aussi à nous. Le Seigneur nous demande vraiment de vivre cette vie, qu'on devienne non seulement ses disciples, mais aussi faire d'autres disciples par nous-mêmes aussi, en enseignant, en observant. Donc, ce n'est pas seulement enseigner, parce que c'est vrai que c'est facile d'enseigner, mais est-ce qu'on peut enseigner ce que nous vivons? Je me rappelle encore, dans mon ancienne église, il y avait un prédicateur que je respectais énormément. C'était un ancien directeur de l'école. Et il disait, mon souci, c'est vraiment comment prêcher ce que moi je vis. Hein? Comment prêcher ce que moi je vis. Donc c'est exactement la parole du Seigneur. Enseigne-leur à observer. C'est vraiment pas seulement enseigner, mais aussi en montrant aussi par son témoignage, observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a cette promesse de Dieu qui dit qu'il serait toujours avec nous dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie, dans les moments où nous avons besoin de lui. Et il nous envoie, comme nous avons entendu le message de la semaine dernière, il nous envoie dans notre famille, il nous envoie autour de nous. Et voilà, est-ce que nous sommes assez réactifs à ce message du Seigneur? J'aimerais vous lire, pour terminer, dans 2 Corinthiens 4, où il est dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor. » Voilà, Jésus est mort, ressuscité. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre qui ne sont pas valorisants. Mais dans ces vases de terre, nous pouvons recevoir cette vérité de trésor qui dit que Jésus est mort et ressuscité. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Ce que nous pouvons faire sur cette terre, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, parce que nous avons des capacités ou parce que nous avons, voilà, non, parce que nous avons des dons. Non, tout est attribué à Dieu et c'est par la grâce, tout est grâce. Et puis nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, parce que nous savons que Jésus est mort ressuscité, que même si nous sommes pressés de toutes parts, de toute manière, nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Même si nous sommes dans la détresse, nous ne serons jamais dans le désespoir. Même si nous sommes persécutés, nous ne serons jamais abandonnés. Même si nous sommes abattus, nous ne serons jamais perdus. Parce que nous avons cette vérité que Jésus est mort et ressuscité. Et ce message nous permet d'acquérir aussi, par la foi, la vie éternelle. La vie éternelle. Je dis toujours, souvent aussi aux jeunes, la connaissance de toutes ces choses-là ne suffit pas pour une vraie transformation. La connaissance ne suffit pas. Il faut encore cette puissance de Dieu qui doit se manifester en nous et qu'il faut encore que je sois mort sur la croix. Paul a dit dans Galates 2, « Je suis mort sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Tout ce que nous pouvons faire, nous devons faire aussi avec le Christ qui vit en nous. Hein? Ce n'est pas par mes propres forces. C'est comme ça que nous pouvons réaliser des miracles. Enfin, nous pouvons vivre sereinement. Ce n'est pas des miracles qui peuvent nous transformer. Vous savez que Pierre, l'apôtre Pierre, a vécu plein de choses avec le Seigneur Jésus. Il a même marché sur l'eau. Il a même vu Jésus réaliser... Enfin, nourrir 5000 hommes, avec les femmes, avec les enfants, ce serait 20 000 personnes, avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a vu Jésus ressusciter Lazare de la mort. Mais, ce n'est pas ces miracles qui l'ont transformé, puisque après la mort de Jésus, il a eu peur devant une petite servante. C'est parce que Jésus, après la résurrection, il a envoyé son Saint-Esprit pour que, voilà, ce Jésus vit en lui. C'est à ce moment-là qu'il a été complètement transformé. J'aimerais conclure avec ce verset. Je regarde toutes choses comme une perte. Comment on peut regarder toutes choses comme une perte? Parce que nous savons que nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes pas, chez nous n'est pas vraiment chez nous. Nous ne sommes que des pèlerins qui passent. J'aurais jamais cru que j'aurais mon âge actuel en ce moment. Tu rigoles, mais pareil. je me dis que l'année prochaine, j'aurai 50 ans. En 2020. Donc je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Moi, 50 ans, l'année prochaine, oh là là. Le temps passe vite. Hein? Comme une rosée matinale, d'après la Bible, comme un souffle. On a l'impression que, voilà, quand je vois les jeunes, là, de 18 ans, c'est 17, 18 ans, 19 ans, ils pensent que, voilà, c'est notre âge, c'est, non, notre génération. Non, mais vous allez aussi devenir, hein, comme nous. Ça va vite, ça va vraiment vite. Hein, ça va vraiment vite. Les anciens pourront vous dire, mais on ne les capte pas vraiment. Le temps passe vite. Mais voilà, on peut regarder toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà. La chose la plus importante, c'est que recevoir Jésus-Christ dans mon cœur et vivre avec lui. Lui faire confiance. Qu'on puisse aussi avoir des pensées saines pour que ce Seigneur qui est en moi, qui demeure en moi, puisse aussi s'épanouir. Qu'il ait toute la place nécessaire. Parce que, voilà, ce Jésus qui est mort il y a plus de 2000 ans est ressuscité. Il est toujours vivant. Il intercède. Il est à la droite du Père et il est avec nous. Il est avec nous en ce moment. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Cette belle, bonne nouvelle de la résurrection puisse nous réjouir et que nous aide en tout cas à marcher droit sur le chemin que le Seigneur Dieu a tracé devant nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce de savoir que tu es avec nous. De savoir que tu as déjà tout accompli. Sur la croix. Et merci Seigneur parce que même si sur cette terre il n'y avait que moi, tu aurais tout fait pour mon salut. Tu aurais tout subi à cause de moi. C'est vrai, quand je réfléchis, j'ai deux enfants, j'ai une famille. Pour cette famille, je pourrais donner ma vie entière. Mais pour un seul enfant, je pourrais aussi donner ma vie. Et c'est le cas aussi, je sais aussi que ce serait aussi le cas pour toi. Si dans ce monde, il n'y avait que moi, tu aurais déjà tout subi, tout cela, cette souffrance, pour le pardon de mes péchés. Et c'est une grande sacrifice que tu as déjà fait. Et c'est vrai que nous avons entendu tellement de fois qu'on est devenu insensible à ce que Dieu a déjà accompli sur la croix. Et c'est une vérité incroyable que personne ne pourrait faire ça pour nous. Mais toi, tu l'as fait pour nous, pour moi. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Merci aussi pour la résurrection. Nous te louons pour tes bienfaits et nous te demandons aussi, je sais que tu demeures en nous et parfois Seigneur, notre chair fait qu'on ne te donne pas assez de place, mais aide-nous vraiment par l'aide du Saint-Esprit à te donner plus de place pour que tu t'épanouisses, pour que tu nous diriges, pour que tu nous entoures, tu nous consoles, pour que tu nous pousses devant, aller de l'avant Seigneur. Merci encore pour cette belle promesse de la résurrection. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.